Le mag sport avec Loïc.
Et bonsoir, chers amis sportifs. Bienvenue sur l'antenne de Radio Albigès pour votre mag sport du 12 septembre 2017. Au sommaire de ce mag sport, nous aurons aujourd'hui tout d'abord la fête des associations qui se déroulait au Vigan et sur le Jardin National ce samedi et où nous avons pu rencontrer Laurent Jousselin, président du Boxing Club Albigeois. Mais nous parlerons aussi bien sûr du 73e Grand Prix d'Albi qui se déroulait tout au long du week-end et qui, malgré une météo un brin capricieuse, a pu se dérouler dans la convivialité avec un spectacle toujours au rendez-vous. Mais pour débuter notre Mag Sport, revenons sur le petit monde du Sporting avec un retour cette défaite sans bonus du SCA dans les Alpes face à Chambéry et qui jette un petit coup de froid sur le tableau de marche des jaunes et noirs. Will, jingle! Et oui, chers auditeurs, ce vendredi à 19h, c'était la rentrée des classes pour le SCA avec le début du championnat fédéral 1 élite, avec un long déplacement chez le dernier finaliste pour la session en Pro D2, Chambéry. Dans ce match entre prétendants, le résultat était tout aussi important que l'impact psychologique qu'il laisserait. Et c'est logiquement avec la volonté de faire un résultat que les Albigeois, qui ont la volonté suprême d'obtenir une remontée express, sont arrivés en Savoie. Au vu de la composition de l'équipe, Arnaud Mella et son staff avaient décidé de donner la prime à l'expérience avec les Bisman, De Dieu, Tavella, Boquerou, André, Peluchon ou Barthélémy, titulaires. Fort de certaines incertitudes emmagasinées lors de leur dernier match amical face à Lavoir, les Albigeois arrivaient pour ce court séjour alpin avec des ambitions qu'ils ont cultivées lors des dernières semaines de travail studieuses et énergiques. Mais au pied des Alpes, les âmes sont rudes et le Savoyard n'est pas réputé pour s'en laisser remontrer. Les Albigeois purent s'en rendre compte par eux-mêmes dès l'entame du match qui, suivant la presse locale savoyarde qui suivait ce match, les deux équipes se livrèrent une belle partie de manivelle durant le premier quart d'heure. Alors que les deux équipes se neutralisaient 3-3 dans un duel de buteurs, Peluchon répondant à l'ouvreur savoyard Villanova, et alors que Thibaut Bisnan avait échoué quelques minutes plus tôt, les Albigeois ne cédèrent pas, puisque Patrick Touhétou fut sanctionné malheureusement d'un carton jaune aux alentours de la 21e minute. Mais même en infériorité numérique, les Albigeois ne cédèrent point et réussirent même à passer 3 points de plus, tandis que les Savoyards leur répondaient dans la foulée, toujours par Villanova. La mi-temps arriva, et alors que deux grosses défenses faisaient face, selon les suiveurs sur place, les Albigeois concédèrent de nouveau 3 points par l'ouvreur maison et rentrèrent au vestiaire en étant menés 9-6. Le début de seconde mi-temps fut le ferment de la défaite albigeoise, car en plus d'encaisser 9 points de plus au pied, portant le score à 18-6, le jeune Acer Usaraga, impétueux basque, se faisait sanctionner à la 55e minute et devait quitter ses partenaires car expulsé temporairement. Les Albigeois subissant souvent les foudres de l'arbitre, que certains auraient reconnu comme étant un ancien joueur d'Aix-en-Provence, cherchaient l'erreur, ne cédèrent pas non plus, et malgré quelques belles combinaisons, ils n'étaient pas encore au niveau de leur ambition, la mécanique manquant un brin d'huile pour dérouler leur rugby. La preuve en fut faite quand, dans les 20 dernières minutes, alors que les locaux étaient successivement réduits à 14 puis à 13, les Albigeois, de par trop de déchets et d'approximations, des échos qui nous en ont été rapportés, butèrent sur la défense chambérienne et ne purent aller chercher ce point de bonus défensif qui aurait largement atténué cette défaite à l'extérieur. Malgré un dernier quart d'heure où ils ont campé dans les 22 Savoyards, Albi ne fit pas rompre le roseau alpin et dut rentrer dans le Tarn, l'escarcelle vide de points. Mais cette défaite a laissé poindre des points positifs quand même, comme l'état d'esprit ou la défense qui fut un des points clés dans ce match à zéro essai de part et d'autre. En contrepartie, les libérations de balles pas assez incisives et le manque d'agressivité dans les rugs du SCA a été pointé du doigt par les personnes présentes au match vendredi, mais surtout les Albigeois ont pêché dans la finition et ce dernier geste qui leur a cruellement fait défaut, preuve d'un déchet dans le jeu encore trop prégnant. Mais ne nous affolons pas non plus car les Albigeois vont recevoir 3 fois filet en moins de mois et cette série de matchs, si elle est négociée avec virtuosité, pourrait effacer très rapidement cette petite désillusion. car, comme l'écrivaient nos confrères de www.rugbyfédéral.com, les supporters locaux ont trouvé nos albigeois pas si à côté de la plaque que cela. Et je cite, « Les albigeois seront sans doute plus difficiles à contrer dans quelques semaines, une fois leur jeu définitivement mis en place, car le potentiel est bien là. » Ce premier match est certes un échec pour une équipe dont l'ambition d'accéder à la Pro D2 est affichée sans embâge, mais n'est pas rédhibitoire au vu des possibilités qu'a laissé entrevoir par à-coup cet effectif depuis le début de la préparation. Qui de mieux que le général en chef du sportif de la Maison Jaune et Noire pour revenir sur ce match et se projeter sur le match face à Limoges au Stadium ce samedi à 19h15 qui arrive comme un boulet de canon. Will Jingle. Écoutons Arnaud Mella. Arnaud Mella, donc revenons un peu sur cette malheureuse défaite à Chambéry. D'après les échos qu'on en a eus, puisque nous ne pouvions pas être sur le match à Chambéry, d'après les supporters et les échos de la presse locale, vous avez été assez vaillant dans le combat. Il y a eu quelques petits mal à l'adresse, peu d'indiscipline. Comment vous analysez ce match ? Celui-là, le retour de celui de la presse de Savoyarde, ou alors il est un peu plus timoré, on peut y trouver d'autres points positifs ?
Oui, oui, des points positifs, il y en a. Oui, c'est bien résumé. On a été très vaillant, très généreux. Donc ça, c'est déjà le point positif du match. On a été solidaire, on n'a pas pris d'essai. On a été confronté à une équipe qui avait un jeu très simple et avec une ligne de trois quarts très solide, vraiment très physique. Donc ils nous ont pas mal tapé dessus. On n'a pas reculé. En tout cas, on n'a pas accepté de reculer. On ne l'a pas fait. Donc ça, je suis très content de ça. Après, bon, voilà, on a plus de possession qu'eux, on a breaké la ligne 7 fois, 6 ou 7 fois, on est en position de marque 2 fois proche d'une ligne sur un travail de gros, sur une touche ballon porté, on tombe dans un but, bon, mais il n'y a pas essai. Après, on a percé du fond de terrain 2-3 fois. Des ballons de marque aussi qu'on n'a pas réussi à mettre au fond parce qu'il nous a manqué un peu de... Surtout le geste sur la dernière passe ou le premier soutien un peu en retard. Voilà. Beaucoup d'envie, il manque un peu de précision. Quoi.
Sur le prochain match, on a vu qu'à l'entraînement, vous travaillez les libérations de balles et lancement de jeu. Le jeu au pied aussi qui a été un peu défaillant, même contre la Vorse, ça a été un peu le point noir du match. C'est les gros points à travailler actuellement pour le SCA.
Mais disons que ouais, jouer les matchs amicaux, on ne tape pas dans un ballon, on joue tous les ballons, on s'est retrouvé. C'est vrai que pour notre premier match, c'est peut-être une erreur de ma part aussi. Contre l'Avoir, on aurait dû le jouer comme un match de championnat, c'est-à-dire taper les pénalités. Donc en loupé, travailler le renvoi, les renvois 22, voilà, il nous en a manqué un peu. On n'avait pas travaillé du tout le jeu au pied d'occupation. Et ça s'est retrouvé un peu de manque sur ce match. Mais bon, moi déjà... Mon optique en allant à Chambéry, c'était de jouer un maximum de ballons et de tenir le ballon le plus longtemps possible pour essayer de les déborder, ce qu'on a réussi à faire. Mais il nous a manqué un petit peu de précision pour pouvoir marquer des essais de loin. Et
ramener un bonus défensif au minimum.
Et ramener un bonus défensif qu'on a échoué à la dernière minute avec un avance sur la ligne d'un but. Et un travail des gros qui aurait pu aussi être récompensé 2 minutes avant, mais bon... C'est comme ça et on se sert de ces matchs-là pour progresser. On va bosser très dur. Cette semaine, on a déjà bien attaqué. Aujourd'hui, ça a été un très bon entraînement cet après-midi. Et on voit que les joueurs sont remobilisés déjà et c'est très positif pour ce week-end. Quoi.
Et sinon, l'état d'esprit, vous avez, on va dire, pris un petit coup de froid dans les Alpes. L'état d'esprit des joueurs n'a pas pris un coup. Ils n'ont pas pris un coup de bambou sur la cafetière, comme on dit. Peut-être que le trajet en bus au retour de 8 heures, ça doit être la soupe à la grimace dans le bus.
Ouais, c'est sûr, c'est dur à accepter. Quand tu t'envoies à 100% et que c'est tes petites scories qui font que tu gagnes pas le match parce que les joueurs ils sont pas plus cons que moi, ils voient bien qu'ils avaient le niveau pour gagner ce match 100 fois et de faire tomber ces petits ballons, ces petites imperfections, et bien ça a fait qu'on n'a pas pu le gagner et on s'est retrouvé mis à l'écart parce qu'on a été sanctionné. Alors il y a eu bien sûr des fautes de notre part, il y a eu des fautes quand même qui étaient contestables, mais bon en tout cas ils ont eu cette pénalité à tenter face au poteau et ils les ont mises, ils en ont mis 6 quoi, et nous on en a eu que 2 à taper, et après on en a eu une de loin qu'on a pris en première mi-temps, Et en fin de match, on s'est retrouvé avec deux pénalités à taper, mais bon, ça ne nous servait à rien, il fallait marquer. Donc voilà, on n'a pas eu les occasions qu'ils ont eues de taper devant les poteaux. Ils ont été certainement plus disciplinés que nous. Pourtant, on a tenu beaucoup plus le ballon dans leur camp. Mais voilà, on n'a pas réussi à marquer.
Quoi. On dira c'est les aléas de l'arbitrage fédéral un peu.
Mais il faut s'y faire, c'est comme ça. Et il faut surtout travailler sur la discipline parce que ça on peut l'arranger que les arbitres ne pourront pas.
Et niveau infirmerie, pas trop de nouveaux bobos. On a vu que Mathieu Peluchon est sorti en fin de match. Thomas Lasselle, son épaule, ça va mieux?
Oui, non, c'est bon, en Peluche, on l'a juste fait souffler 10 minutes. Il avait les jambes un peu raides. Bon, il n'avait pas joué plus longtemps et puis là, il y avait un peu de rythme quand même. Donc, c'était juste du coaching et après Thomas, il est en phase de retour, de reprise là, donc non, il n'y a pas d'inquiétude au niveau du groupe. On récupère Nomani qui va être quasiment apte pour ce week-end. Je ne sais pas s'il sera prêt, mais en tout cas, déjà, il nous a fait un bon entraînement, donc c'est bon signe.
Donc, contre Limoges, vous allez lâcher la cavalerie, comme on dit, pour le premier match à domicile?
Ouais, on va essayer en tout cas, on va essayer de se faire plaisir, de faire plaisir à tout le monde et surtout que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain et comme ça, ça va lancer notre saison.
Dernière question plus perso, on sait que vous avez deux clubs de cœur, Brive et Albi. Un petit sentiment sur la situation de Brive qui en trois matchs à trois défaites, 0 point top 14, c'est vraiment un départ calamiteux.
Ouais, je les suis de près, je les ai aussi au téléphone, ils sont un peu dans le dur. Bon, mais on a déjà vécu des périodes moins fastes que ça et même. Mais bon, ouais, le groupe est très soudé là-bas, j'ai confiance en eux, ils vont s'en sortir. Il faut juste qu'ils se resserrent un peu autour des cadres et des joueurs d'expérience et ça va le faire. Maintenant, ils savent très bien qu'il faut bosser et ça va payer.
Ok, merci Arnaud, j'espère vous retrouver avec la gagne samedi soir.
Allez, très bien, samedi alors.
Samedi. Arnaud Mella, qui a toujours un œil averti sur la Corrèze et dont le nom est supputé, voire susurré naturellement dans les shortlists en Limousin, surtout au vu du départ calamiteux du CA Brive, et qui même, si dans un futur proche ou lointain, aura peut-être un jour des prérogatives au sein de ce club, n'en reste pas moins concentré uniquement sur sa mission actuelle et première, porter le Sporting Club albigeois jusqu'à sa place d'ironie naturelle, la Pro D2. Droit dans ses bottes, le manager du SCA trace sa route avec un point de mire, l'ascension du monde fédéral pour pouvoir dévaler de nouveau la saison prochaine dans les prairies du professionnalisme. Et Albi, pour parvenir à ses ambitions, va devoir dès samedi face à Limoges engranger de la confiance et enquiller les points s'ils ne veulent pas que les tumultueux supporters jaunes et noirs ne se mettent à tancer et à gronder. Cette semaine et celle qui suivent risquent d'être primordiales et fondatrices pour cette saison, car ce championnat compact et raccourci ne laisse que peu de place aux oublis coupables et aux points perdus en cours de route si la CA veut atteindre à minima les 5 premières places synonymes de barrage d'accession. Pour finir sur le SCA, un petit flash spécial avec une bonne nouvelle, Will Jingle Breaking News. Et oui, chers auditeurs, c'est avec joie que nous vous annonçons qu'en compagnie de Vincent Clément, nous commenterons ce samedi au Stadium la réception de Limoges sur nos ondes. Alors, amis supporters du CA, qui ne pouvez pas être au stade pour soutenir les jaunes et noirs, rendez-vous sur Radio Albigeste dès 19h samedi pour suivre ce premier match à domicile qui sera, espérons-le, la première victoire de ce championnat de Fédéral 1 Elite et qui permettra, espérons-le aussi, de lancer une saison que tous les supporters souhaitent victorieuse. Maintenant, passons à notre événement ce week-end, la fête des associations organisée par la ville d'Albi. Et oui, lors de cet événement devenu incontournable, dont la mairie d'Albi a fait vitrine son tissu associatif, nous avons pu découvrir l'étendue et la richesse des activités sportives en albigeois. Pêle-mêle, on a pu voir du ski alpin, de la marche nordique, de la capoeira, de l'escrime, du tir sportif, du tir à l'arc, de l'aviron, ou même du yosekan budo. Mais nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement au club de boxe Albi pour prendre de ses nouvelles tout juste quelques mois après les malheureux événements qu'ils ont dû subir. On écoute à notre micro le président de ce club qui fait face à l'adversité. Nous sommes à Albi, à la fête des associations, avec Laurent Jousselin, président du boxing club albigeois. Monsieur Jousselin, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter brièvement l'activité de votre club?
Alors l'activité de notre club, c'est de la boxe anglaise. Et nous avons deux volets. Tout d'abord la boxe anglaise classique avec l'accueil des jeunes, des moins jeunes et de tout le monde pour des entraînements tout à fait classiques. Et l'autre activité, c'est l'aérobox qui s'adresse plus particulièrement à un public féminin qui est du fitness sur des mouvements de boxe. Voilà. Après, on prend toute tranche d'âge à partir de 8 ans jusqu'à ce que le docteur décide d'arrêter. Voilà.
Disposez-vous de combien de licenciés dans votre club ?
Alors actuellement, nous avons eu l'année dernière 110 licenciés.
Et quels sont les prochains programmes, galas de boxe qu'il y aura dans l'année ?
Alors nous espérons dans un proche avenir, c'est-à-dire au début décembre, accueillir les championnats Midi-Pyrénées de boxe amateur.
Et votre champion local, Aboubakar Bechlaghem, où en est-il ?
Aboubakar Bechlaghem boxe début octobre à Blagnac.
Ok, et on sait aussi que vous avez eu un petit souci à la fin de l'année avec la ferme Gosserand qui a malheureusement pris feu pour des raisons criminelles. Est-ce que vous avez retrouvé votre outil de travail ?
Pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé notre outil de travail. La mairie travaille pour faire les travaux qui seront normalement finis début 2018. Et pour l'instant, nous exploitons avec la participation du SCA, le pavillon d'honneur du SCA qui nous le prête bien gentiment. Voilà.
Bien, en espérant vous retrouver très bientôt et avec votre outil de travail restauré et flambant neuf.
Mais nous aussi, on attend un nouvel outil de travail pour tout le monde.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
En espérant dès l'année prochaine retrouver tous les participants de cette manifestation, devenue l'étendard de l'activité associative et sportive locale. Maintenant, passons au 73e Grand Prix d'Albi qui se déroulait au circuit séquestre ce week-end du 9 et 10 septembre. Alors que la météo fut un brin capricieux samedi, arrosant avec parcimonie la piste albigeoise, les épreuves du dimanche ont réussi à se dérouler avec un temps relativement clément. Et c'est au plus grand bonheur des aficionados de sport mécanique albigeois et tarnais que nous avons pu voir défiler un plateau assez relevé composé entre autres des courses midget de litre, Caterham, Super Tourisme, Clio ou encore la très prisée course des célébrités. Cette dernière fut remportée par Gérard Rolls qui au milieu des Tex, des Nicolas Jalabert, des Stéphane Pouyès ou autres Stella Carpentier joua le rôle de capitaine de route. En effet, l'ancien journaliste sportif, devenu parrain de l'épreuve et d'un circuit qu'il affectionne, était tout enjoué à l'idée d'avoir remporté cette manifestation et s'est lancé dans une éloge survoltée de l'épreuve sur le podium, au micro d'Alain Rey, le speaker officiel du circuit. On l'écoute.
Vous faites gagner le circuit en fait. Vous aidez Didier Cyr, que vous aimez. Vous aimez vous soutenez Stéphanie, la mère d'Albi qui fait un travail aussi formidable. Voilà. Tous les bénévoles, tous les commissaires de piste. Merci, et vous le public, sans vous on ne peut rien faire. Tous les artistes qui sont là le savent, on ne peut rien faire sans vous. Donc définitivement je dirais, vive le sport, vive Albi !
Merci Gérard, à qui on peut faire l'ovation qui mérite.
Mais un circuit ne peut vivre sans le soutien des collectivités, comme la région Occitanie, la mairie d'Albi, mais aussi le département du Tarn. Partenaire historique du circuit, le département du Tarn était représenté par Isabelle Espinoza, Eva Géraud et Christophe Armand. Ce dernier étant pressenti pour prendre très prochainement la succession de Thierry Carsonac à la tête du département dans quelques jours, nous sommes allés lui tendre notre micro pour qu'il puisse nous donner ses impressions sur cette manifestation. On l'écoute. Nous sommes avec Christophe Ramon, conseiller départemental du canton Albi 3. Monsieur Ramon, vous représentez le département pour cette manifestation institutionnelle qui est devenue le Grand Prix d'Albi. Vos impressions sur le nombre de spectateurs et la prestation qui est proposée par les pilotes ?
Non, c'est une très belle manifestation. On a l'habitude à Albi, je crois que c'est la 73e édition, donc on peut vraiment se féliciter une nouvelle fois. Cette belle réussite populaire, parce que je pense que le circuit d'Albi, c'est avant tout une belle fête populaire, une belle fête aussi parce que ça permet un réel partage, un échange autour de cette passion automobile. Et puis je crois que c'est aussi l'idée de se retrouver pour des moments de convivialité, des moments où on échange et puis on a quand même un public de passionnés à Albi. On se doit bien évidemment de continuer à soutenir cette belle manifestation sportive.
Et puis, comme vous le dites, le Grand Prix et le circuit d'Albi est ardemment soutenu par le Conseil Général. C'est quand même un symbole de notre patrimoine sportif.
Comme vous le dites si bien, c'est un symbole de notre patrimoine, mais effectivement, depuis presque les origines, le département est partenaire à cette belle manifestation. Après, effectivement, il y a quelques difficultés, mais je crois qu'on se doit de continuer à être un partenaire essentiel de ce Grand Prix parce que, comme on le voit aujourd'hui, il y a du monde, il y a beaucoup d'effervescence, il y a de la passion, il y a de belles compétitions sportives. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour Albi et le devenir notre commune, c'est-à-dire d'arriver à mettre ensemble ce côté convivial, mais aussi ce côté sportif qui permet à tout le monde de se retrouver dans cette belle enceinte.
En parlant de difficultés, on a vu que cette semaine, il y a eu quelques petits soubresauts. Quel est l'avis du département sur le sujet ?
Non, ok, je crois qu'il y a une législation, tout le monde doit la respecter. Et dans ces conditions, il n'y a aucune difficulté pour que le conseil départemental s'inscrive dans cette démarche. Après, chacun doit assumer ses responsabilités.
Merci, monsieur Ramon. Au revoir.
Avec plaisir.
Mais pour avoir un retour complet sur cet événement, nous ne pouvions ne pas avoir le président du circuit, Didier Siang, qui, au sortir d'une course super tourisme amateur, au cours de laquelle il termine en second, vint très sympathiquement nous donner son ressenti sur cette manifestation qu'il s'évertue à organiser avec énergie. On l'écoute.
Nous sommes avec Didier Sirg, président du circuit d'Albi. Monsieur Sirg, le temps d'une course, vous avez repris le volant. Comment s'est passée cette course ? Vous finissez seconde, cette course championnat de super tourisme amateur. Vos sensations ?
Les sensations sont bonnes parce que je partais d'un peu loin, parce que découvrant la voiture sur la pluie hier, c'était pas facile, donc je partais un peu loin sur la grille. Et puis au gré des tours, le temps est venu puisque j'ai fait le quatrième temps de course et donc... vraiment, ça s'est super bien passé, aussi bien ce matin que cet après-midi. Ce matin, je gagne l'amateur et je fais quatrième au général. Je ne peux pas mieux faire, voilà, ils sont plus forts que moi devant.
Et puis le circuit, vous le connaissez comme votre poche en plus.
Bon, comme ma poche non, parce que j'y organise, on prépare ce circuit pour plein de terrains de jeu, auto, moto, camion, tout ça. Et bien finalement, on n'y roule pas beaucoup dessus.
D'accord.
Mais on l'aime.
Maintenant, on reprend à la casquette... de dirigeant de circuit. Quelles sont vos impressions après ce week-end qui va bientôt toucher à sa fin ?
Ben, je vois que le public est venu, est heureux des événements. On a 13 plateaux, 6 exhibitions, donc vraiment pas de temps mort. Des spectacles un petit peu partout, du drift qui enchante le public, aussi bien que ceux qui ont la chance de participer dedans, parce qu'il suffit de jouer sur Internet pour participer. L'acrobatie aérienne aussi qui a beaucoup plu. Enfin, je vois que tout le monde s'amuse, les buvettes marchent bien, la restauration aussi. Les loges sont pleines, on sent vraiment une bonne humeur autour de ce terrain.
La météo tient aussi pour le moment.
Voilà, donc on n'a pas manqué d'amener les œufs à Notre-Dame de la Drèche et ensuite il a fait le reste.
Bon, et on sait que cet événement se finit, mais il y en a deux autres qui arrivent, le Pro Truck et le Superbike. C'est, vous êtes déjà dans les starting blocks, on va dire.
Déjà dans 15 jours, les finales du championnat de France Superbike. Donc là, c'est un autre public qui est attendu, nombreux, qui attend cet événement chaque année avec impatience. Il y aura 180 participants des catégories de partout, du pilote albigeois qui vont faire cet événement et qui vont probablement marquer le devant de la scène.
Animé. Merci. Merci monsieur Sirg, à très bientôt pour
Merci à vous et à 15 jours.
À 15
jours.
Parce
que je sais que vous aimez la moto.
Tout à fait. Au revoir.
Et comme nous le disait avec humour Didier Sirg, dès le 23 et 24 septembre, rendez-vous au circuit pour le Superbike, autre événement incontournable des sports mécaniques en albigeois. Maintenant, pour continuer un peu sur le circuit, passons aux soubresauts qui ont alimenté l'avant Grand Prix, le bras de fer entre le circuit d'Albi et la mairie séquestre sous fond de Southwest. Je vous fais part d'un communiqué du conseil municipal du séquestre. Remettons un peu de vérité dans les questions relatives au circuit. Une bonne fois pour toutes, la commune séquestre ou son conseil municipal n'a pas vocation à être le bouc émissaire des vicissitudes du circuit. Le Southfest, nous n'en avons rien interdit. Nous avons averti par deux fois l'organisateur que son dossier était incomplet. Toute manifestation recevant du public doit faire l'objet d'un dossier attestant que la sécurité, incendie et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sont assurées. L'organisateur n'a pas transmis ses documents et a décidé lundi d'annuler la manifestation car nous n'avions pas donné l'autorisation. Ce n'est pas la mairie qui a annulé le festival car il était encore possible à l'organisateur de nous transmettre les documents demandés. L'échange que le maire a eu avec la personne qui portait le projet a été tout à la fois, très cordial et professionnel. La fermeture circuit. Personne au conseil municipal, tout comme l'association des riverains, ne veut la fermeture circuit. Nous demandons juste de pouvoir allier son utilisation avec le bien-être de nos habitants. Pendant près de 20 ans, alors qu'il était géré par une association, la cohabitation était possible car le nombre de journées bruyantes de l'année restait décente. Le décret du 7 août 2017. Nous lisons dans la presse que le décret du 7 août ne change rien. Pourtant, il change totalement la nature de la mesure du tort causé aux riverains. Si le niveau maximum de bruit mesuré en sortie de pour échappement reste en effet de la compétence des fédérations sportives, le niveau maximum de bruit mesuré pour le voisinage est désormais fixé par le Code de la santé publique. Les émergences de bruit qui s'appliquent sont donc celles de ce code. L'expertise acoustique judiciaire, qui vient de publier son pré-rapport, indique une valeur de bruit ambiant sur la commune aux alentours de 45 décibels. Pour une utilisation qui ne durerait qu'une demi-journée, l'émergence autorisée serait de plus 7 décibels, soit un bruit autorisé à 52 décibels. Or, les mesures fournies par la société en charge de relever les émissions de bruit du circuit donnent des scores compris entre 65 et 80 décibels pour un Grand Prix par exemple. Nous sommes donc au-delà du seuil de tolérance pour le Code de la santé publique. Notre politique communale a toujours été de favoriser à cet emplacement un développement économique respectueux de l'environnement. Nous avions été à l'origine de la création de la SEM Everipol pour développer des applications embarquées hydrogène et électriques. De ce fait, conscient qu'il est plus aisé de faire croire que c'est la commune séquestre qui sera la cause de tous les maux, nous avons saisi la préfecture et les services d'État afin que ce soit l'État qui fasse respecter la loi qu'il a lui-même émise. Nous attendons la réponse des services de l'État. Un arrêté ministériel viendrait compléter les dispositifs de l'application de la loi. Nous n'avions pas prévu de communiquer avant cela, mais les mises en accusation successives publiées par la presse nous obligent à réagir. Signé le conseil municipal du séquestre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de cette affaire, dirons-nous, Southfest, mairie du séquestre, circuit d'Albi. Sur ce, cette émission touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux. Merci bien sûr, comme d'habitude, à Will pour la technique au cordeau. Et sur ce, je vous dis à Décias et à vendredi, 17h30.